Chapitre 10. Le ciel limpide s'est couvert d'épais nuages chargés de pluie à la nuit tombée, noyant la lune dans un cocon cotonneux. La Canada Flintridge, au pied des monts San Gabriel, au nord-est de Los Angeles, est une banlieue huppée constituée de propriétés soignées, sagement alignées le long d'avenues bordées d'arbres. Curieusement, la chaussée est en piteux état et les réverbères n'éclairent plus rien dans la rue où vivent à choc Raincar et sa femme Doris. Charlie Weatherwax, apôtre de la nécessité du mal, se laisse conduire par Mustapha Al-Yamani, le numéro 2 de son commando de 4 membres. En leur qualité d'adeptes reconnus de la révolution arcadienne, ils se déplacent à bord d'un SUV de luxe, un Mercedes-Benz G550, doté d'un moteur turbo 4 litres de 416 chevaux, capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Ce véhicule leur a été fourni par le département de la sécurité intérieure, l'une des agences dont ils sont les employés officiels. À 32 ans, Mustapha est un garçon ambitieux qui rêve d'acquérir un jour une propriété à East Egg, une bourgade chic de Long Island, et d'être accueilli à bras ouverts par les vieilles familles fortunées du cru. Pour réaliser ce rêve, il a demandé l'autorisation à la sécurité intérieure de changer officiellement son nom en Tom Buchanan, mais ses chefs ont refusé car l'agence, soumise à des quotas communautaires, dispose de trop peu d'employés arabes. Aussi différent soit-il, Charlie et Mustapha s'entendent bien. Le régime strict et survitaminé du premier offre un contraste frappant avec le penchant du second pour la cuisine française et son habitude de commander deux desserts au restaurant. Charlie est aussi famélique qu'un loup avec son maître 90, alors que Mustapha, plus petit d'une bonne tête, a la carrure d'un pitbull. Et alors que Mustapha s'intéresse exclusivement aux blondes froides aux yeux bleus, Charlie se fiche éperdument de la couleur des cheveux de ses conquêtes, tant qu'elles sont jolies et aime être humilié au lit, un art qu'il pratique de façon raffinée.
C'est quoi ce quartier minable ? Demande Mustapha en faisant la moue.
L'anglais n'est pas sa langue maternelle, mais il a soigneusement veillé à chasser de sa diction le moindre reliquat d'accent étranger.
Ils n'ont même pas dégagé les arbres morts, et regarde ce réverbère. On dirait qu'il est tombé depuis des mois.
Nous sommes à la pointe nord de la vallée, à la limite de la Canada. Les habitants de ce quartier recherchent avant tout la tranquillité.
Peut-être. Mais comment se fait-il que ce Vikram vive dans un trou pareil, s'il a réussi à détourner des millions en piratant les comptes de 9 agences gouvernementales?
Il s'imagine peut-être que c'est le meilleur moyen de rester discret.
Riche comme il est, pourquoi diable vivre avec son oncle et sa tante ?
Sans doute parce qu'il les aime.
Il faut qu'ils soient vraiment géniaux pour qu'il accepte d'habiter un patelin pareil.
Prêt à tout pour gravir les degrés de l'échelle sociale d'East Egg, Mustapha ne se déplace jamais sans un rasoir qu'il utilise toutes les 3 ou 4 heures. Il porte une eau de toilette subtilement discrète et dort une nuit sur deux avec des bandes censées lui blanchir les dents. Une opération de chirurgie esthétique lui a permis d'échanger son nez arabe contre un appendice nasal qu'il juge plus proche des canons anglo-saxons, en donnant le sentiment que du sang anglais coule dans les veines de ses ancêtres depuis l'ère coloniale. Il a fait retirer par électrolyse les poils de ses mains et ses ongles manucurés ressemblent à ceux d'un mannequin. Ses mêmes mains se cramponnent soudainement au volant du Mercedes et il s'arrête aussitôt imité par les 3 collègues qui roulent dans son sillage à bord d'un Escalade Cadillac. Il tend un doigt en direction d'un panneau.
« Qu'est-ce que tu en dis ?»«
Attention, danger, roulez lentement, chaussée dégradée, glissement de terrain. » C'est à cause des incendies de l'été dernier et des fortes pluies de cet hiver. Répond Charlie. Un mélange détonnant. On va bien voir. Le macadam a disparu à plusieurs endroits, manifestement emporté par des torrents de boue dévalant de la colline au pied de laquelle court la route. Les trous ont été comblés provisoirement par de la terre recouverte de gravier. En dehors de quelques nids de poules, Le reste de la chaussée est praticable. Plusieurs réverbères manquent à l'appel et les autres sont tombés, de sorte que le quartier est plongé dans l'obscurité. Aux maisons éclairées des rues voisines succèdent à présent des propriétés abandonnées, pour certaines protégées par des grillages munis de pancartes qui en interdisent l'accès. La septième maison, au bout de la rue, est celle que sont censés occuper Ashok, Doris et Vikram Rainkar. Elle dresse sa silhouette sombre sur un terrain d'un demi-hectare planté de chênes. Sur l'allée conduisant à la résidence, de l'autre côté du grillage, est garé un Mercury Mountaineer. Au moment où Charlie et Mustapha descendent du Mercedes, des éclairs s'échappent silencieusement des nuages. La nuit était étrangement calme. Le vent reprend des forces avant l'orage annoncé. Les trois occupants de l'escalade, Pete Ablard, Hans Holbein et Andy Serrano, atteignent les premiers le portail grillagé. Pete et Hans, le pan de leur blouson écarté, ont la main posée sur la crosse de l'arme accrochée dans un étui à leur ceinture. Ils sont prêts à tirer, bien que Vikram Rainkar ne soit pas considéré comme dangereux. Le temps que Charlie rejoigne le trio, un homme descend du Mountaineer et s'approche. À travers le grillage, l'inconnu entame la discussion avec Andy Serrano qui a sorti un badge du FBI au lieu de montrer son accréditation de la sécurité intérieure, moins bien vue du grand public que le bureau. Andy fait courir le faisceau de sa torche sur le visage du quadragénaire latino qui reste parfaitement serein. L'homme, un dénommé Jesus Mendoza, paraît coopératif. Charlie se plante à son tour devant la grille et sort son badge avec autorité. Mendoza ouvre le portail à sa demande, tout en niant connaître quiconque du nom de Rainkar. À l'entendre, les propriétaires de la maison sont Norman et Dodie Stein. Il effectue pour eux des travaux de jardinage et d'entretien depuis près de 2 décennies. Charlie a des photos d'Ashok, Doris et Vikram sur son téléphone. Il les montre à Mendoza.
Non, monsieur, je n'ai jamais vu ces gens.
D'après les enquêteurs du bureau, Vikram a monté il y a 26 mois une association nommée Smooth Operator Development qui accouchait 2 mois plus tard d'une SCI baptisée Chacha Ashok. Le mot Chacha est l'équivalent d'oncle paternel en hindi. Il y a 16 mois, la SCI a fait l'acquisition de cette propriété. Cette maison est enregistrée au nom d'une société appartenant à Vikram et Ashok Rainkar, insiste Charlie auprès de Mendoza. Ashok et Doris Rainkar figurent sur les listes électorales du CRU.
Il y a erreur, monsieur. Je ne sais rien de tout ça, mais on vous a mal renseigné. Personnellement, je ne vote pas, je déteste la politique et je ne suis pas propriétaire. Il y a encore 2 mois, je vivais dans un logement au-dessus du garage.
Mendoza est poli et effacé, mais il lui manque une qualité que Charlie apprécie avant tout chez les citoyens ordinaires dont il croise la route. L'humilité est une qualité en soi, mais elle ne suffit pas. Encore faudrait-il que Mendoza se montre soumis. Il rempoche son téléphone et toise Mendoza, qui est encore plus petit que Mustapha Al-Yamani. Il prononce volontairement le prénom de son interlocuteur à l'espagnol.
« Jesús, c'est bien ça ? Écoute-moi bien, Jesús. Si jamais tu cherches à protéger Vikram Rainkar, Jesús, je t'envoie croupir dans une prison fédérale pendant 10 ans. On a l'intention de fouiller cet endroit de fond en comble, Jesús, et on compte sur ta pleine et entière coopération. »
Mendoza sourit avec un haussement d'épaule.
Bien sûr, la loi est juste quand elle est utilisée légalement.
Un éclair de chaleur annonciateur d'orage illumine brièvement la scène, et Charlie a la nette impression que le latino se fiche de lui.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Mendoza botte en touche.
La ville a condamné la propriété à la suite des coulées de boue. Monsieur et Madame Stein contestent cette décision auprès des tribunaux. Ils veulent sauver la maison en faisant construire des murs de soutènement, s'ils obtiennent l'autorisation. En attendant, personne n'a le droit d'habiter la maison.
Alors, qu'est-ce que tu fabriques ici ? S'étonne Charlie.
Je ne peux plus jardiner et entretenir la maison, mais je veille sur elle la nuit pour qu'elle ne soit pas vandalisée.
Tu nous accuses de vouloir vandaliser la maison, Jesus ?
Non, monsieur. Vous êtes un représentant de la loi. Suivez-moi. Je vais vous montrer qu'il n'y a jamais eu de Reinkar ici.